Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Quand on réfléchit à la façon dont un leader doit s'adresser à un groupe de personnes qui traversent une crise existentielle grave, notre instinct moderne dicte une approche très spécifique.
Ouais, une approche basée sur l'empathie avant tout.
Exactement. L'usage veut qu'on commence par la validation émotionnelle. Le groupe souffre, donc on identifie la douleur, on compatit, on verbalise le traumatisme pour montrer qu'on a compris, et ensuite seulement, on essaye d'offrir une solution.
C'est vraiment l'approche standard de la gestion de crise aujourd'hui, en fait. On cherche à rendre le problème visible, presque à le circonscrire, pour pouvoir appliquer un baume apaisant.
On veut rassurer les gens le plus vite possible, quoi.
C'est ça. L'idée, c'est de créer une connexion par l'empathie pure. Mais en plongeant dans l'histoire de la rhétorique, on découvre que ce modèle n'est pas le seul.
Ah, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on explore une méthode totalement contre-intuitive qui nous vient de l'Antiquité. Nos sources proviennent des archives de la base de données multilingue Biblical e-Learning et Learning.
Et plus particulièrement, on se base sur la 13e session d'un cours du docteur David A. de Silva. Le cours s'intitule « Le sermon aux Hébreux et l'art de la prédication ».
Voilà. Et l'objectif ici, c'est pas du tout de faire un débat théologique. La mission, c'est d'extraire les 5 stratégies de communication utilisées par cet auteur pour comprendre comment il déplace un public de ses préoccupations immédiates vers une vision beaucoup plus vaste. D'accord ? Décortiquons tout cela.
C'est une véritable leçon de leadership. Mais pour bien saisir la mécanique, il faut vraiment se représenter la réalité de ce public du 1er siècle.
Ils n'étaient pas dans une situation facile.
Pression sociale écrasante. Ils vivent des pertes matérielles, des pertes sociales. Il y a une anxiété chronique et une marginalisation quotidienne par leurs propres voisins.
Du coup, l'orateur est confronté à un défi colossal.
Énorme. Il doit combler la distance entre cet état de détresse absolue dans lequel le public est embourbé et la vision grandiose vers laquelle il veut les amener.
Et la façon dont cet orateur commence à construire ce pont, ça défie complètement nos attentes modernes.
Carrément. Plutôt que de s'apitoyer sur leur sort, il opte pour ce que la source décrit comme une réorientation radicale de leur attention.
La première stratégie.
C'est ça. Le docteur de Silva résume cela en disant qu'il faut toujours leur donner Jésus. Au lieu d'aborder les souffrances immédiates dans ses phrases d'ouverture, il choisit délibérément de les ignorer.
Attends, il ne mentionne pas la douleur du tout.
Pas un mot au début. Et c'est un choix narratif extrêmement audacieux. S'il avait commencé par dire un truc du genre « Je sais à quel point vos pertes récentes sont injustes », il aurait validé leur statut de victime.
Ah oui, je vois. Ou alors il aurait pu utiliser la culpabilité en leur reprochant de ne plus venir aux réunions par peur des représailles.
Exactement. Mais en évitant ces deux écueils, l'orateur évite d'enfermer son public dans son propre nombril.
Donc, à la place, qu'est-ce qu'il fait?
Les 10 premiers versets déploient une immense toile de fond cosmique. Il leur parle d'un Dieu qui s'exprime par son Fils, une entité qui soutient l'ordre de l'univers tout entier, qui a participé à la création.
Il prend un public obsédé par les persécutions locales d'une petite ville de l'Empire et il submerge leur champ de vision avec la majesté cosmique. Cette dissonance cognitive, elle est volontaire, non?
Totalement intentionnelle. Le contraste force un choix d'implicite. Il leur montre que s'ils continuent à focaliser toute leur énergie sur les conflits locaux, ils vont chercher un compromis.
Et ce compromis va entraver leur parcours.
Voilà. L'alternative qu'ils proposent, c'est de capter cette attention fragmentée et de la verrouiller sur une mission d'ampleur divine. Il décrit des scènes célestes, l'adoration des anges, la solidité de cette réalité.
Tu sais, l'analogie qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un entraîneur sportif. Imagine un entraîneur dans les vestiaires à la mi-temps. Son équipe est menée au score. Ils sont physiquement détruits.
Ouais, l'ambiance est lourde.
Si l'entraîneur passe 20 minutes à parler de la boue sur le terrain, des ecchymoses, des fautes d'arbitrage...
Les joueurs restent bloqués sur leur fatigue.
Exactement. Par contre, s'il entre qu'il ignore complètement les blessures et qu'il commence à décrire le moment précis où ils vont soulever le trophée du championnat, la parade dans la ville, l'histoire qu'ils écrivent, il réoriente leur douleur. Mais je me pose une question. Est-ce que cette technique, c'est pas juste une forme d'évasion?
Une fuite de la réalité, tu veux dire?
Ouais, c'est ça. Une fuite vers un idéal abstrait pour pas affronter la douleur.
Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas du tout de l'évasion. L'analyse du docteur de Silva rejette fermement cette idée.
Ah bon?
Oui. La source précise que ce n'est pas comme chanter une douce berceuse pour oublier le monde. Au contraire, c'est un remède psychologique super aiguisé contre la honte.
Parce que la société fonctionnait beaucoup sur l'honneur et la honte à l'époque.
Exactement. Leurs voisins utilisent la marginalisation pour les briser psychologiquement. Alors, l'orateur leur présente une figure qui a subi la pire des détresses et l'humiliation publique maximale avant d'accéder à la gloire.
Oh, wow. Donc, en regardant cette figure cosmique qui a traversé la souffrance, ils trouvent un miroir qui redéfinit leur propre parcours.
Et le fait de voir leur situation accablante paraître soudainement minuscule, ça leur donne une respiration, un espace mental.
Et ce recul, c'est ce qui leur permet de retourner affronter la réalité. Mais ils n'y retournent plus comme un groupe vaincu.
Non, ils y retournent avec la perspective de ceux qui participent à un plan triomphant. C'est une restructuration complète de leur résilience.
Mais bon, l'excitation cosmique retombe fatalement quand les pressions quotidiennes reprennent. Et c'est là qu'on passe à la deuxième stratégie.
Comment maintenir cette concentration face aux difficultés, ouais.
L'orateur va utiliser un précédent historique pour encadrer le moment présent. Il s'appuie sur les Écritures, c'est là que ça devient vraiment intéressant.
La façon dont on encadre une épreuve détermine vraiment notre capacité à la surmonter. L'auteur sélectionne un moment précis de l'histoire de la génération du désert.
Dans le Livre des Nombres, chapitre 14.
C'est ça, couplé au psaume 95 qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs ».
Le choix de cette histoire, il est tellement révélateur. On parle de ces anciens Hébreux, libérés de l'esclavage en Égypte. Ils ont vu des miracles, traversé la mer, survécu au désert. Et ils arrivent littéralement à la frontière de la terre promise.
Ils envoient des espions pour évaluer la situation, et là, c'est la panique.
Ouais, les espions déprivent des villes fortifiées, des obstacles énormes. La peur s'installe, au point où ils veulent nommer un nouveau chef pour retourner en Égypte. Et sont prêts à retourner sous le fouet pour retrouver un certain confort.
La source utilise une expression frappante pour ça, les viandes bouillies d'Égypte.
Les viandes bouillies d'Égypte, ouais.
C'est la métaphore parfaite du confort dans l'oppression. Et l'orateur diagnostique que le danger mortel pour son public, c'est pas la persécution. Le vrai danger, c'est cette sclérose spirituelle.
Le durcissement du cœur.
En fait, c'est cette mécanique psychologique terrifiante qui nous pousse à préférer un passé misérable mais familier à un avenir grandiose qui exige d'affronter l'inconnu.
Et la subtilité de l'orateur, c'est le cadre mental qu'il choisit. La notion de seuil.
Oui, il ne les place pas sur la ligne de départ.
Exactement. Si on dit à quelqu'un qu'il est au kilomètre zéro d'un marathon et que ses muscles brûlent déjà, l'abandon semble rationnel. Mais en les identifiant à cette génération à la frontière, il les place sur le pas de la porte.
Et cette architecture psychologique transforme tout. Situé sur le seuil de ta destination, abandonner, ça veut dire gaspiller toutes les souffrances passées.
Toutes les larmes. Tous les efforts, le seuil modifie le coût de l'abandon. Soit on avance en payant le prix final, soit on recule vers l'esclavage en perdant tout.
Mais on pourrait se demander s'il ne manipule pas un peu la perception du temps, là.
Comment ça, Eve ?
Bah, ces personnes n'allaient pas franchir une ligne d'arrivée le lendemain. Leur cheminement allait durer des décennies.
Sans garantie que leurs problèmes sociaux s'arrêtent. Donc, est-ce qu'ils forcent leur adhésion avec une fausse urgence ?
L'analyse suggère plutôt une lecture existentielle de ce seuil. Ce n'est pas une manipulation, parce que ce seuil se présentait à eux quotidiennement.
Ah, je vois. Chaque interaction hostile avec un voisin était une décision de seuil.
Exactement. Chaque jour, ils devaient choisir franchir la porte avec courage ou regarder en arrière vers la sécurité illusoire. Ils transforment l'épreuve banale en un moment décisif.
C'est puissant. Donc maintenant, le public regarde vers le cosmos. Il se voit sur un seuil historique. Et là, boum, troisième stratégie. Le leader opère un changement de ton brutal.
Il passe de l'inspiration à la responsabilisation. Et c'est presque une confrontation.
Dans les chapitres 5 et 6, il fait une sorte de digression. Un vrai signal d'alarme. Il leur dit que l'attentisme, c'est fini.
Il attend d'eux une véritable maturité spirituelle. Les termes de la source sont durs. Il refuse de les laisser agir comme des, je cite, « moutons stupides ».
Des moutons stupides, ouais. Qui se contentent de brouter dans leur coin.
Il exige qu'ils deviennent des bergers actifs. Il explique que la conversion initiale, ce n'était que le stade larvaire d'un long processus.
Et il parle de gratitude coûteuse pour une grâce coûteuse, mais honnêtement, d'un point de vue leadership, ça semble super risqué.
Tu trouves ?
Bah oui. C'est comme un professeur d'université qui arrête un cours très complexe pour gronder des étudiants angoissés parce qu'ils n'ont pas fait leur lecture. Secouer des gens déjà fragilisés, le risque de les braquer est immense, non ?
Si l'on relie cela à la vision globale, on comprend que la clé réside dans l'intention.
D'accord.
Ne rien exiger d'une personne opprimée, c'est valider son impuissance. C'est lui dire secrètement qu'elle est trop brisée pour accomplir quoi que ce soit.
Ah, c'est brillant. Donc, en refusant de les traiter avec des gants de velours, il leur accorde un profond respect.
Exactement. Il les extrait de la victimisation. En exigeant qu'ils s'occupent des autres et vivent selon leurs engagements, ils restaurent leur agence et leur dignité.
La dignité que la société essaie de leur arracher. Il les rend indispensables.
La source apporte une réflexion philosophique là-dessus. On ne connaît vraiment une vérité que lorsqu'on est prêt à la vivre activement.
La compréhension intellectuelle ne suffit pas, il faut l'incarner. Mais pour exiger cette grâce coûteuse de la part des gens, pour leur demander de risquer leur statut social, il faut des arguments solides.
Ardu. Comment un sacrifice humain peut expier des péchés?
Et pourquoi une croix hors du camp vaut mieux que le grand autel de Jérusalem?
Il ne tourne pas autour du pot, hein. Il va au fond des choses.
Cette analyse donne une assurance raisonnable. En s'attaquant à ces concepts, il répond à leur réalité sociale.
Parce que si l'événement central de leur foi s'est déroulé hors du camp, dans l'exclusion, alors leur propre exclusion par la société n'est plus une anomalie.
Leur exclusion devient une participation à ce récit fondamental.
Ça donne un sens direct à leur souffrance.
Et le docteur De Silva met ça en contraste avec ce qu'il appelle le syndrome du pasteur débordé. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ?
Eh bien, dans notre monde, que l'on dirige une entreprise, une école ou une communauté, l'urgence de l'administration prend souvent le pas sur la réflexion de fond.
C'est le piège classique. On se donne l'illusion d'accomplir des choses en gérant la logistique et on esquive le travail intellectuel ardu.
Et pourtant, esquiver ça, c'est condamner le groupe. On ne peut pas équiper les gens pour résister aux tempêtes avec de simples slogans.
Les slogans motivationnels s'effondrent sous la pression sociale. Ils avaient besoin d'un contenu charnu, d'une substance intellectuelle dense.
C'est la seule chose capable de résister aux attaques de la société, qui détruit leur crédibilité.
Donc on a le cosmos, le seuil historique, la responsabilisation, la fondation intellectuelle. Et là, la cinquième et dernière stratégie, il actionne le levier de l'ambition.
C'est fascinant parce que souvent, les discours religieux cherchent à étouffer le désir de réussite.
Pour prêcher l'effacement de soi, l'humilité.
Mais lui, il décide d'utiliser l'ambition comme carburant. Il comprend que le désir de grandeur est inhérent à la nature humaine. L'éteindre serait contre-productif.
Alors il redirige cette passion vers l'excellence, vers ce que la source appelle les applaudissements du ciel.
Le docteur De Silva utilise une analogie géniale avec l'ancienne émission de télévision « Le style de vie des gens riches et célèbres ».
Ah oui, je m'en souviens. Les yachts, les villas somptueuses, ça attisait l'envie.
L'auteur des Hébreux rejette complètement cette idée, qui ressemble à l'évangile de la prospérité moderne.
Qui n'est qu'une validation du matérialisme.
Voilà. Il les invite plutôt à regarder le style de vie de ceux qui sont riches en Dieu. Et ça se passe dans le chapitre 11.
C'est une véritable parade de grands accomplissements. L'histoire d'Abraham, de Moïse, des martyrs. La vie est présentée comme un grand concours athlétique. Mais pourquoi utiliser ce vocabulaire du sport et de la célébrité ?
Cela soulève une question importante sur la nature humaine, le mimétisme. Nous sommes des créatures sociales, on intériorise les valeurs de ceux qu'on admire.
C'est vrai. Si nos héros sont des manias de la Silicon Valley ou des stars, on poursuit des prix temporaires.
C'est pour contrer ça qu'il remplit métaphoriquement les tribunes de son arène avec une nuée témoin.
Pas des élites romaines, mais des figures héroïques. La source parle de l'Ancien Testament, mais s'étend même aux martyrs modernes, derrière le rideau de fer ou en Asie du Sud-Est.
Remplaçant les idoles du confort par ces modèles absolus, il suscite de saintes ambitions.
L'ambition n'est pas détruite, elle est purifiée. C'est brillant. En retraçant tout ça, on voit une ingénierie psychologique redoutable.
Réorienter l'attention vers le cosmos, recadrer via le seuil, exiger la responsabilité, fournir des arguments profonds, et enflammer l'ambition vers un but transcendant.
C'est une méthode puissante, conservée dans ses archives de Biblical e-learning. Ça dépasse de loin la théologie antique.
Les mécanismes de la peur et de l'assimilation sociale n'ont pas changé. Que l'on dirige une organisation en crise ou qu'on essaye de persévérer dans ses propres convictions, ça reste d'une modernité frappante.
Ça demande de la substance et un refus de l'infantilisation. Ce parcours nous laisse d'ailleurs avec une vraie réflexion sur nos influences.
Puisqu'on devient ce qu'on admire, oui.
Si notre ambition imite nos héros, la question finale qui se pose, c'est qui occupe actuellement les tribunes de notre propre esprit ?
C'est la bonne question.
Et si ces figures de réussite qu'on laisse influencer notre quotidien ne cherchaient en réalité qu'à nous ramener vers les viandes bouillies d'Égypte, vers ce confort immédiat au détriment de la véritable mission qui nous attend sur le seuil ? C'est matière à réflexion.